de l'acte avant de traiter de la substance? Eh bien, nous verrons que non. Il y a un ordre. Et si vous passiez tout de suite de jugement d'existence à l'acte, vous n'arriveriez pas à saisir vraiment ce que c'est que l'acte. C'est très curieux, c'est important. C'est là où on peut dire qu'il y a une certaine méthode dans les différentes parties de la philosophie. Parce que les différentes parties de la philosophie n'ont pas le même ordre dans l'ordre des interrogations. Et ça, c'est important. C'est en ce sens-là qu'il y a une certaine méthode. À l'intérieur même de l'analogie, il y a une certaine méthode, il y a un ordre dans la diversité. Et il faut commencer par le tiesti de la découverte de la substance, avant de découvrir le tiesti de la finalité de l'acte. Et ça, nous le verrons. Je suis encore dans la topique maintenant, hein, n'oubliez pas. Donc nous avons essayé de comprendre, mais cette question se pose, puisque de fait, chez Aristote, Aristote le dit textuellement, qu'il faut découvrir la substance avant de découvrir l'acte. Mais ce n'est pas parce qu'Aristote le dit que je le répète, hein, mais c'est vrai qu'Aristote le dit textuellement. Il faut d'abord découvrir la substance, et au fond, pour lui, si Platon n'a pas saisi vraiment ce que c'est que l'acte, c'est parce qu'il n'a pas saisi vraiment ce que c'est que la substance. Donc si nous ne pouvons pas, si nous n'avons pas encore saisi la substance, c'est très difficile de saisir l'acte. Mais on peut quand même un tout petit peu faire un bond au-dessus. Alors, je vous disais donc qu'après Aristote, immédiatement après, il y a le problème de chez Plotin, qui est intéressant parce que il montre l'énergeia, qui est une grosse influence en théologie orthodoxe. Et l'énergeia est saisie comme un intermédiaire entre le bien et l'un et puis le nous. Il faut regarder ensuite comment les théologiens ont utilisé cette distinction de l'être en acte et en puissance. Et je vous disais qu'il y en a un très grand problème par rapport à saint Thomas. Après les théologiens, regardez dans Descartes. Est-ce que Descartes a saisi le problème de l'être en acte et en puissance? Il est sûr que Descartes a saisi le problème de la substance. Mais Descartes a saisi le problème de la substance non pas comme principe formel de ce qui est, mais il a saisi le problème de la substance comme une des modalités de la substance, les deux modalités de la substance, la substance pensante et la substance étendue. Descartes parle de réalité existant en acte, d'être potentiel. Laisser potentialer, dit-il, en reprenant l'expression de Suarez, il y a une dépendance de Descartes et de Suarez, vous le savez bien, par l'intermédiaire, par l'intermédiaire de ses professeurs qui étaient suarésiens, mais en réalité, pour lui, l'être en puissance, à proprement parler, n'est rien. Ça, c'est très curieux. Il le dit, c'est textuellement sa phrase. L'être en puissance, à proprement parler, n'est rien. Il se définit par la négation de l'être. Il se définit par la négation de l'acte. Ce qui rend inintelligible la définition aristotélicienne du mouvement. Quant à la définition du mouvement, c'est Descartes, hein, quant à la définition du mouvement, il est évident que la réalité dont on dit qu'elle est en puissance est conçue comme n'étant pas en acte. Intelligi non esse in actu. Vous savez que Descartes écrit aussi bien en latin qu'en français, n'est-ce pas? Et certains traités de Descartes sont écrits en latin, et puis d'autres sont écrits en français, en langue vulgaire. Donc, est conçu comme n'étant pas en acte, de sorte que lorsque quelqu'un dit que le mouvement est l'acte de l'être en puissance, en tant qu'il est en puissance, mais quelqu'un dit. Aristote reçoit le boulet. Hein? Quand quelqu'un dit, parce que tout le monde sait ce que c'est ça, dit que le mouvement, le quidam, cette espèce d'animal particulier qui a dit ça. Donc, lorsque quelqu'un dit que le mouvement est l'acte de l'être en puissance en tant qu'il est en puissance, on doit entendre par là que le mouvement est l'acte de l'être qui n'est pas en acte, en tant qu'il n'est pas en acte, ce qui est une contradiction manifeste, ou du moins inclut beaucoup d'obscurité. Ça, c'est Descartes a une dent contre Aristote qui est extraordinaire, et cette dent a continué en Sorbonne très longtemps. Elle commence à s'abîmer un tout petit peu, il y a eu une carie, alors on a mis autre chose, mais au fond, la dent de la Sorbonne contre Descartes, contre Aristote, provient de Descartes. Hein. Faut pas l'oublier. Et c'est intéressant de voir que la manière dont il transforme l'être en puissance. L'être en puissance, c'est l'être qui n'est pas en acte. Alors vous comprenez, hein, la division aristotélicienne de ce qui est. Il divise l'être en acte et l'être en puissance. Cette division prend une signification tout autre, puisque en puissance, ça veut dire qui n'est pas en acte. Donc c'est la division de l'être et du non-être. Or, la division de l'être et du non-être ne divise pas du tout l'être. Vous voyez comment cette distinction de l'être en puissance et de l'être en acte qui divise ce qui est, ne divise plus rien du tout. Donc, c'est la perte totale de l'analogie de l'être. Puisque c'est la distinction de l'être en acte et l'être en puissance qui, pour Aristote, est la découverte de l'analogie. C'est là où il dit « Allô, allô, hein, ne l'oubliez pas, le téléphone avec Aristote. Hein. » C'est l'analogie. Alors, c'est par là où on découpe ces deux aspects. C'est une division de ce qui est du point de vue de l'être. Transformé en puissance par non-acte. Le non-acte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le non-acte manifeste ce que c'est d'être en acte, exactement comme le non-être. Le non-être est un être de raison, puisque le non-être n'existe pas. Vous ne l'avez jamais vu. Le non-être n'existe que dans votre intelligence. C'est votre négation, c'est votre pouvoir de nier qui fabrique le non-être. Donc c'est un être de raison, le non-être. Le non-acte est un être de raison. Donc, quand je dis être en acte et être en puissance, je ne divise plus ce qui est. C'est plus une division de la réalité. C'est tout simplement mon intelligence qui manifeste ce que c'est d'être en acte. Exactement comme lorsque je dis non-être. Voyez donc la suppression de la distinction être en acte et être en puissance qui se fait par Descartes. C'est très important ça. C'est très important parce que si l'arrêt de la métaphysique, vous comprenez, c'est la distinction de l'être en acte, de l'être en acte et de l'être en puissance, si c'est ça qui donne la signification profonde et qui nous permet, comme nous le verrons, de pouvoir aboutir à l'affirmation qu'il existe un être premier qu'on appelle Dieu. Vous supprimez cela, alors vous ramenez toute la métaphysique au point de vue de la substance. Et en réalité, la distinction de la substance et des accidents n'est même pas saisie par Descartes. Ceci, c'est pour que vous compreniez la chute, hein. C'est ça qui est intéressant. Étant donné sa méconnaissance de l'être en puissance et de l'être en acte, qu'il identifie avec l'existence en acte le fait d'exister, sa conception purement mécaniste du mouvement, on comprend que Descartes exclut totalement de sa physique la considération de la cause finale. La cause finale disparaît complètement. Alors je crois qu'à partir de Descartes, on peut dire que la causalité finale disparaît de la philosophie. C'est loin, vous voyez, la disparition. Et je crois que c'est net, ça. Il suffit de lire ce passage que je viens de vous lire tout à l'heure. C'est quand même extrêmement net, cette manière dont il identifie l'être en puissance avec le fait de ne pas être en acte. Alors, il faudrait regarder La manière dont Leibniz, de Descartes à Leibniz, vous savez qu'il faut toujours situer Leibniz comme étant le dernier des grands scolastiques. C'est un grand bonhomme, Leibniz. C'est quelqu'un qui a quelque chose de puissant. Mais c'est toujours la même tentation. Hein. Descartes veut appuyer sa philosophie sur les mathématiques. Descartes a tellement été séduit par les mathématiques que pour lui, la philosophie n'a pas d'autre sens que de fonder les mathématiques. Mais en réalité, c'est pas du tout la philosophie qui fonde les mathématiques. Les mathématiques n'ont pas besoin de la philosophie pour se fonder elles-mêmes. C'est ce qu'un mathématicien devrait répondre à Descartes. Je n'ai pas besoin de vous pour exister, puisque j'ai existé avant vous. Donc les mathématiques n'ont pas besoin de la philosophie pour se justifier. Toujours se rappeler ça. Pour se justifier, c'est-à-dire pour exister, tout simplement. Le philosophe peut essayer de comprendre où se situe le langage mathématique, ça c'est très bien. Mais le langage mathématique se fonde sur l'abstraction mathématique, tout simplement. Et c'est l'intelligence elle-même qui se donne à elle-même son propre objet. Propre du domaine mathématique, ça. En réalité, Descartes est séduit par les mathématiques parce que c'est là où la connaissance est la plus certaine et la plus claire. Et c'est pour ça que, de fait, la philosophie va plutôt s'appuyer sur les mathématiques. Et on en a la confirmation très nette quand Descartes veut, à propos des preuves de l'existence de Dieu, et vous savez qu'il en est. Il a fait un tout petit peu comme Saint Anselme, mais pas de la même façon, mais il a fait un tout petit peu comme Saint Anselme. Saint Anselme est revenu plusieurs fois sur le problème, Descartes est revenu plusieurs fois, chaque fois cherchant une démonstration plus forte. Et pour lui, la dernière démonstration la plus forte, modo geometrico. Alors ça en dit long. Ça prouve que pour lui, la manière de penser du géomètre, modo geometrico, c'est la pensée la plus achevée. Donc, il n'y a plus de connaissance proprement philosophique. Oui. Eh bien, chez Leibniz, ce ne sera pas par rapport aux mathématiques, ce sera par rapport à la physique. Alors, Leibniz réintroduit, et ça, il faut le connaître, il réintroduit le point de vue de l'entéléchie. Mais pour Leibniz, l'entéléchie, donc il reprend le terme grec, vous voyez. Il réintroduit le terme entéléchie comme une force active constituant la perfection du monde créé. Donc, quand on a précisé que Leibniz définissait la substance comme un être capable d'action, une vis activa, réagissant contre Descartes, il raconte comment il découvrit que les raisons dernières du mécanisme et les lois mêmes du mouvement ne pouvaient se trouver dans les mathématiques et qu'il fallait revenir à la métaphysique. C'est ce qui me ramena, dit-il, aux entéléchies et du matériel au formel. C'est joli. Mais la conversion de Leibniz aux entéléchies. Contre Descartes. C'est ça que c'est toujours intéressant de voir Descartes, Leibniz. Ce sont deux contraires. Leibniz reprend donc le terme de entelecheia, terme que les écoles, estime-t-il, n'ont que trop peu expliqué. C'est Leibniz qui dit ça. L'entéléchie, c'est resté. C'est curieux, parce que vous retrouvez exactement la même réaction chez Heidegger. Autrement dit, on se trouve devant un mot qu'Aristote a inventé, et qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et l'école n'a pas traduit, puisqu'on a traduit acte. On a fait la même traduction, vous savez bien, ça on verra la réaction violente de Heidegger là-dessus. Alors c'est intéressant de voir que pour Leibniz, ce terme entelecheia bien n'a pas été expliqué, qui signifie la perfection d'une réalité. Et surtout, pour Leibniz, sa force. Donc, voyez bien, la vis activa, qui regarde la substance va chez Leibniz regarder encore l'entelekeia. Donc la vis activa, cette vis activa, c'est une vis active. Hein. D'habitude, elles sont passives, mais là, c'est une vis active. Hein. Alors vous allez tout de suite comprendre ce que c'est que cette vis activa. Bien, cette vis activa, elle regarde les deux. Elle regarde la substance, elle regarde l'entelechie. Vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, la vis activa va être quelque chose de tout à fait prédominant. Et c'est vrai. Si on veut comprendre Leibniz, il faut regarder cette vis activa. C'est cette entelechie qui définit la monade. On pourrait, alors je vous cite ce passage, on pourrait donner le nom d'entelechie à toutes les substances simples ou monades créées, car elles ont en elles une certaine perfection. Il y a une suffisance autarkeia. Il le dit, une autarkeia. Il y a chez elles une autarchie, une suffisance qui les rend source de leur action interne et, pour ainsi dire, des automates incorporels, des petits dieux. Cette vis activa, c'est très intéressant de voir comment la monade de Leibniz va s'identifier avec cette vis activa et ça va donner l'autarkeia. Et donc vous serez en phase d'être autonome. L'être autonome, c'est celui qui se suffit à lui-même. Alors, c'est tout le problème, comment cette vis activa peut être créée. Revue et interprétée par Leibniz, l'entelekeia devient avant tout efficience, la force active qui anime la substance, qui anime la monade, et qui est un intermédiaire entre le pouvoir et l'action, qui contient un effort, grâce auquel elle passe d'elle-même à l'action, si rien ne l'empêche. Ça se meut. C'est la substance qui se meut, l'entelechie. C'est la substance qui est capable de se mouvoir. Vous voyez, c'est comme un acte substantiel. C'est au niveau de la monade. C'est extraordinaire comme vision. C'est intéressant puisque c'est le retour, vous voyez, à Aristote contre Descartes. Et c'est l'entelechie qui est vraiment le lieu où Leibniz s'est opposé le plus violemment à Descartes. Et je crois que c'est à cause de l'entelechie qu'il a cette conception, vous voyez, de la substance comme vis activa. C'est pas la substance qui lui fait comprendre la vis activa, c'est l'entelechie qui lui fait comprendre la vis activa, et la vis activa est la substance. Et elle est la substance, mais elle est la substance en tant qu'elle est capable de se mouvoir, en tant qu'elle est capable de se développer. Leibniz tient à bien spécifier que la notion d'entelechie, qui n'est pas entièrement à mépriser, dit-il, il ne faut pas la mépriser totalement, apporte avec elle non seulement une simple faculté active, mais aussi ce qu'on peut appeler force, effort, conatus, dont l'action même doit suivre si rien ne l'empêche. Alors que la puissance active des scolastiques, dit-il, ou faculté, a cependant besoin de recevoir pour passer à l'acte, l'excitation d'une autre chose. Donc on est en face, vous voyez, d'une source active qui a sa propre puissance. Je vous lis encore ce petit passage. Si la puissance est prise comme la source de l'action, elle dit quelque chose de plus qu'une aptitude ou facilité, car elle renferme encore la tendance. C'est pourquoi, dans ce sens, j'ai coutume de lui affecter le terme d'entelechie, qui est ou primitive, et répond à l'âme prise pour quelque chose d'abstrait, ou dérivative, telle qu'on conçoit dans le conatus et dans la vigueur et l'impétuosité. La puissance d'agir sans aucun début d'acte est nulle. Il y a un début d'acte. Bon, je crois que c'est suffisant de vous rappeler, parce que vous ne voulez pas faire une étude sur la limite ici, mais c'est simplement pour montrer l'opposition de Descartes vis-à-vis de l'entéléchie, la reprise de l'entéléchie chez Leibniz. Alors, après, il faudrait regarder, parce que je crois que c'est quand même ça qui est intéressant à voir, la redécouverte, et on peut dire comme une reprise de la découverte, de ce que représente l'entéléchie et l'énergeia avec Heidegger. Vous avez les trois. Il y en a d'autres entre deux. Mais il y aurait à voir comment, de fait, le scène, comment Lavelle reprend tout point de vue de l'acte. Un gros bouquin de Lavelle sur de l'acte. Je me souviens quand ce bouquin de Lavelle est passé de l'acte, il y avait au Solchoir des pères qui étaient en exaltation en disant « Ah, voilà, la métaphysique d'Aristote qui revient ». Quand vous regardez de l'acte de Lavelle, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la métaphysique d'Aristote. C'est du Lavelle tout craché, mais qui est intéressante. Hein. Lavelle était un homme pieux, craignant Dieu, et qui avait une attitude assez particulière, qui était sûrement un homme spirituel, assez franciscain, assez bonaventurien. Et c'est au fond, il était très proche de l'attitude de saint Bonaventure. Et il aimait beaucoup ce qu'on représentait la conscience de soi. Au temps de Lavelle, il y a eu tout comme ça une espèce de... On était attiré par ce point de vue. Et alors, il y a dans Lavelle, celui qui fait une topique sur l'acte, doit regarder le gros bouquin de Lavelle, de l'acte. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de livres philosophiques sur de l'acte. Alors, chez Heidegger estime que d'un bout à l'autre de l'histoire de la métaphysique, Aristote est le seul à avoir pensé à fond l'énergeia, mais sans que cette pensée ait jamais pu par la suite devenir essentielle dans ce qu'elle a d'originel. Vous voyez, ça c'est les grands coups de patte d'Heidegger. Heidegger a de ces trucs invraisemblables. Hein. Depuis Parménide jusqu'à Heidegger, personne n'a pensé l'être. Depuis l'énergeia d'Aristote jusqu'à Heidegger, personne n'a pensé l'énergeia. C'est beau du reste, ça. C'est beau, ça fait des grandes vagues. Hein. On passe au-dessus, c'est le cyclone, alors qu'il passe au-dessus comme ça. Et on voit bien, c'est les deux mouvements de Heidegger. Je crois que c'est très important de saisir ça. C'est les deux grands mouvements de Heidegger. De Parménide à Heidegger du côté de l'être, d'Aristote à Heidegger du côté de l'acte. Alors comment on va s'agencer les deux, ça c'est différent. Vous voyez ? Mais c'est très curieux parce que reconnaissant que l'énergeia chez Aristote prend une place unique, cependant, il ne dit pas qu'Aristote a conçu l'être d'une façon parfaite. Il considère qu'Aristote n'a pas conçu l'être d'une façon parfaite, il est resté à l'état. En effet, l'énergeia a été traduite par actus, traduction par laquelle le monde grec, d'un seul coup, a été liquidé. Vite fait. Oui, le coup de patte. C'est extraordinaire. Mais c'est beau, ça. Il y a quelque chose de très grand de voir ça. Comment énergeia ayant été traduit par actus, alors, dès qu'on a fait ça, on a fait la confusion la plus terrible du soir. Donc, on n'a plus rien compris du tout au monde grec. Traduction, ça veut dire, vous voyez, qu'on reste uniquement aux mots et qu'on ne pense pas, ça. C'est vrai, ça veut dire ça. On est esclave des mots. Et de là, on a dénaturé en actualitas et en réalité effective, vous voyez, Leibniz. Réalité effective, le connaît tous. Effectivité, efficience, objectivité, fabricabilité. Voilà comment l'acte s'est dégradé. Oui, de la dégradation de l'énergeia. Et la dégradation de l'énergeia, c'est bien cela. Actualitas, réalité effective, effectivité, efficience, objectivité, fabricabilité, l'étant est réel en tant qu'effectif. et il n'est plus maintenu dans l'apparence de sa stabilité qu'en étant fait objet, soit pour le regarder, soit pour le faire, soit pour les variations sans fin de l'activité industrieuse. Mais ça, c'est vraiment extraordinaire de voir ça, de voir cette espèce de chute. C'est le poète de l'énergéia, c'est évident quand il dit ça, en montrant toutes les chutes de l'énergéia dans notre monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'acte aujourd'hui? Ah oui, c'est l'efficience. Ah, il est actif. Oh, ce qu'il est actif, ce qu'il est en acte, tous les résultats, vous regardez tout ça, et c'est tout ça que vous regardez, jusqu'à la fabricabilité. Alors, quand Heidegger dit ça, vous savez, ça c'est le vieux coup de patte hein, de l'ours. De même, l'appellation suprême utilisée par Aristote pour l'être, entelecheia, donc il a dit ça pour l'énergeia. C'est intéressant parce que, comme il est très sensible aux étymologies, Heidegger est très sensible à ces deux mots d'Aristote. Hein. Ça, c'est le mérite de Heidegger, ça, il faut le reconnaître. De même, l'appellation suprême utilisée par Aristote pour l'être, entelecheia, a été déformée par l'usage qu'en ont fait la philosophie ultérieure, en particulier Leibniz, et même la biologie. En réalité, explique Heidegger, le sens grec de energeia et entelecheia est tout autre. Energeia n'a rien à voir avec l'actus latin et avec l'activité, mais seulement avec ergon. Vous voyez, on voit très bien. Energeia, c'est lié étymologiquement à ergon. Donc si c'est lié étymologiquement à ergon, faisons attention. Acte n'a rien à voir avec ergon. C'est vrai, étymologiquement. Oui, mais c'est toujours le même défaut de Heidegger. Parce que, comme dit saint Thomas, les mots, c'est très bien de regarder leur étymologie, mais comme les mots sont faits pour l'usage, on doit regarder la signification qu'on a donnée l'usage. C'est beaucoup plus sage, vous voyez, ce que dit saint Thomas. C'est toute une autre conception du langage. Heidegger a une conception poétique du langage. Alors, parce qu'il a une conception poétique du langage, il essaie de découvrir la première émergence. C'est ça, le poète essaie toujours de renouveler la signification des mots, pour leur en donner, si vous voulez, une signification originelle. C'est un aspect du poète hein, qui redonne cela. Alors, Heidegger veut redonner une signification originelle à energeia et entelecheia. Et donner cette signification originelle, c'est d'essayer de voir l'origine première. Energeia, c'est bien évident, c'est lié à ergon, dont les Grecs ont eu l'expérience et avec sa manière d'être produit devant nous dans la présence. L'energeia, c'est l'être en œuvre, au sens de l'entrée dans la présence. Voilà la définition qu'il donne de l'énergéia. Oui, c'est très féminologique, mais c'est intéressant. C'est intéressant au moins à regarder. C'est au moins, il y a quand même pensé à ça. Qu'est-ce que c'est qu'énergéia? C'est l'être en œuvre, parce que c'est ergon. Donc il y a l'œuvre dedans. C'est l'être en œuvre au sens de l'entrée dans la présence. Présence du présent. Ça devient plus difficile à penser. C'est-à-dire ce par quoi la présence est présence. C'est ça, présence du présent. Oui. Présence est un mot abstrait. Il faut donc chercher ce qui est présent dans la présence. Et alors c'est bien l'entrée dans la présence. L'entrée dans la présence, c'est la présence du présent. C'est des petits jeux de mots qui montrent bien l'abstrait, le concret, et ce par quoi, parce que la blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. La présence, c'est ce par quoi le présent est présent. On peut faire ça pour tout. Ça paraît très savant, ça n'est pas du tout. C'est tout simplement le passage du mot abstrait et concret. Pour une fois que vous avez saisi cette clé, c'est une petite clé, un passe-partout, n'est-ce pas, l'abstrait et le concret, au point de vue des mots. Si vous faites une philosophie très engagée au point de vue de l'étymologie, C'est évident, ça joue énormément, ça. Alors, l'énergeia, qu'est-ce que c'est? L'être en œuvre au sens de l'entrée dans la présence. Alors, essayez de comprendre. L'être en œuvre au sens de l'entrée dans la présence. Quand un être entre dans votre présence. Oui, c'est assez psychologique, hein, quand même. Assez affectif. Quand quelqu'un entre dans la présence, il se dévoile. Tiens, tu es là. Je n'avais pas aucune attention. Il entre dans la présence. Et alors, être en œuvre, parce qu'il est actif pour entrer dans la présence. Au point de vue affectif, je comprends très bien comment quelqu'un entre dans ma présence. Ordinairement, c'est quand il est absent que je m'aperçois qu'il est entré dans ma présence. Non. Et c'est vrai, je ne savais pas que j'étais si lié à toi. Depuis que tu es parti, je m'aperçois qu'il y a un trou, qu'il y a un vide. Ah, tu étais entré dans ma présence. Ça, c'est, on voit très bien. Tu es entré dans ma présence, énergeia. Étymologiquement, très juste. Quant à l'entelekeia, alors maintenant, chercher une télé cueillant. Elle est le se tenir dans la terminaison. Ça, c'est encore plus difficile. Mais c'est bon de temps en temps faire de Heidegger. Ça, vous voyez que saint Thomas, c'est limpide, et qu'Aristote aussi. Et si nous étions heideggeriens, on resterait comme ça du matin jusqu'au soir. On est à se gargariser l'entelekeia et l'ergeia. Bon, quant à l'entelekeia, elle est se tenir dans la terminaison. Donc, se garder dans la terminaison. Elle est le se posséder dans la fin. C'est assez joli du reste, hein. C'est assez poétique, moi je trouve. Se posséder dans la fin. Voilà l'entelekeia. Se posséder dans la fin. Commentant un passage de la physique, Heidegger précise le se posséder enfin, donc dans la fin, entelekeia, et le déploiement intime de la mobilité, c'est-à-dire l'être de ce qui est mu, et le déploiement intime de la mobilité, l'être de ce qui est mu, parce que cette reposant suffit le plus proprement au déploiement de l'ousia. Ah, le déploiement de l'ousia. C'est cette reposance qui suffit le plus proprement au déploiement de l'ousia. Le fait de se reposer. L'entelekeia. On est dans sa fin. Vous voyez, la grande détente de l'être. Ah, il se détend. Comme le boa. Il se détend. Mais c'est temps, quand vous vous détendez au soleil, hein, entelekeia. C'est tout à fait se tenir dans la terminaison. C'est-à-dire se posséder dans la fin. C'est vrai qu'il y a ça, il y a le déploiement de, c'est évidemment très, encore une fois, très lié à toute une attitude affective et psychologique, mais qu'il faut essayer de saisir, parce que c'est quand même intéressant de voir cela, de voir parce que cette reposance suffit le plus proprement au déploiement de l'ousia, ou en soi, constante présentation dans le visage. Alors ça, c'est plus difficile. C'est pas là l'intelekeia. En soi, constante présentation dans le visage. La présentation dans le visage, le face-à-face. Alors ça, c'est le face-à-face, hein. En soi, constante présentation dans le visage. Vous êtes présent à quelqu'un, face à face. Alors ça, c'est l'entelekeia. C'est ce qu'Aristote dit à sa façon, ajoute Heidegger, dans une phrase de la métaphysique, c'est très joli, parce qu'il renvoie à une fois, c'est lui qui interprète et c'est lui qui déploie absolument ce... Aristote n'était pas assez, la reposance d'Aristote n'était pas suffisante. Tandis que la reposance de Heidegger, ça a mis 2 siècles. L'être s'est mis 2 siècles à se reposer. Alors, en Heidegger, la repousance est plus parfaite. Ce qu'Aristote dit à sa façon, ajoute Heidegger, dans une phrase de la métaphysique, où la pensée aristotélicienne, et cela veut dire en même temps, la pensée grecque atteint son sommet. Ça, c'est un des passages très extraordinaires de Heidegger. Il nous dit ceci, où la pensée aristotélicienne, et cela veut dire en même temps la pensée grecque, atteint son sommet. Le sommet de la pensée grecque, c'est l'entelekeion. C'est pas étonnant, c'est la reposance. Donc c'est le sommet. C'est le sommet de la pensée grecque. Alors vous voyez, là, c'est difficile d'établir comment se fait-il que quand il s'agit de l'être, il regarde Parménide, en disant « seul Parménide a vraiment compris l'être ». Et cependant, quand il s'agit de l'entelekeia, il dit « c'est là le sommet ». Alors, si c'est là le sommet, donc par le fait même, Aristote a mieux compris l'être que Parménide, ce que nous disons. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Heidegger, c'est pour ça que je retiens cette phrase, parce que là, on se tient la main. C'est vrai que c'est le sommet de la pensée grecque. Quand Aristote saisit, je ne dis pas l'entelekeia, mais l'energeia. Quand il saisit ça, c'est le sommet. Je crois qu'on n'a pas été plus loin. On n'a pas été plus loin, on essaie de saisir ce que ça veut dire, mais on n'a pas été plus loin. On touche un sommet. On touche vraiment un sommet d'une pensée philosophique, d'une pensée métaphysique. Alors, c'est intéressant de voir que Heidegger le reconnaît. Ça prouve qu'il a saisi quelque chose. Pouvoir dire ça dans tout le contexte, hein, dans tout le contexte heideggerien. C'est pas commode de pouvoir dire vraiment ça. Et de reconnaître qu'il y a là un sommet. Où la pensée aristotélicienne, et cela veut dire en même temps la pensée grecque, atteint son sommet. Et où il s'agit expressément de l'entelekeia. La traduction habituelle de cette phrase, manifestement la réalité est antérieure à la possibilité. Donc dans le livre Tétan, où Aristote montre l'antériorité de l'acte sur la puissance. Donc cette phrase, manifestement la réalité est antérieure à la possibilité, apparaît comme une évidente erreur. La traduction, faisons attention, la traduction, pas le texte d'Aristote, car c'est bien plutôt, alors voilà l'interprétation heideggerienne, c'est bien plutôt la possibilité qui est antérieure à la réalité. Ah, ça c'est très intéressant. In coda veninum. Alors bon, vous voyez comme c'est difficile à comprendre. Il dit que le sommet de la pensée grecque, c'est l'entelekeia. Et puis après, quand il prend l'antériorité de l'acte sur la puissance, il dit mais non, pas du tout. C'est l'inverse. Il y a erreur. Alors comment expliquer ça avec le sommet de la pensée grecque qui est l'entelekeia? Apparaît donc comme une évidente erreur, car c'est bien plutôt la possibilité qui est antérieure à la réalité. Car pour que quelque chose soit réel, il faut d'abord que cela soit possible. Mais en réalité, pour penser en grec et d'une façon aristotélicienne, il faut penser la dunamis non comme potentia, capacité et possibilité que quelque chose a, mais comme l'être approprié pour, qui est le mode encore retenu et contenu de paraître et de ressortir dans le visage, où l'être approprié s'accomplit. Mais ça c'est là où il faut bien comprendre la manière dont il comprend la dunamis. Et au fond, on a un peu l'impression qu'il revient à la dunamis plotinienne. Oui. Ça, serait intéressant. Parménide, il ne le dit pas. Parce qu'au fond, il ne dit pas ça du tout. Mais au fond, il nous montre ici, à propos de cette petite phrase, que l'acte est antérieur à la puissance, il montre que c'est cela que nous devons essayer de comprendre. L'être approprié pour, qui est le mode encore retenu et contenu de paraître et de ressortir dans le visage. où l'être approprié s'accomplit. L'être approprié s'accomplit dans le visage, c'est-à-dire dans la présence, dans le face-à-face. C'est dans le visage où l'être approprié. Et alors, avant qu'il s'accomplisse, il est retenu et contenu de paraître et de ressortir dans le visage. Je dirais, c'est là où on saisit comme une espèce de, dans le sens stoïcien, l'intensité d'une chose. Vous savez, une réalité est particulièrement intense avant l'éclosion. C'est le bouton et la fleur. Il est bien évident que dans le bouton, il y a une intensité unique qui éclate dans la fleur. Et le moment de la fleur n'a qu'un instant. Et c'est l'intensité, ça c'est la dunamis. Et donc la dunamis a quelque chose de plus, d'une certaine manière, que l'acte. Quand Aristote affirme que l'energeia est antérieure quant à la substance, à la dunamis, c'est Heidegger qui l'a dit, il connaît parfaitement le livre Theta, vous savez bien que à son séminaire, il n'acceptait au séminaire du livre Theta que ceux qui le lisaient en grec. Hein. Oui, il n'y en a pas beaucoup. C'est la seule manière de faire un nombre restreint. Quand Aristote donc affirme que l'energeia est antérieure quant à l'ousia, à la dunamis, il veut dire, selon Heidegger, que l'energeia accomplit de façon plus originelle le déploiement de la pure entrée en présence dans la mesure où elle signifie le « se posséder en œuvre et en fin » qui a laissé derrière lui tout le « pas encore » de l'être approprié pour. Vous avez tous compris, hein ? Vous n'avez pas compris ? C'est lamentable. C'est quand même, vous devriez comprendre ça. C'est dit d'une façon si forte. Hein. Ouais. Comprenez l'arc tendu, quoi. C'est simple. L'arc tendu. Eh bien, le moment le plus merveilleux, c'est quand l'arc est tendu. Et quand la flèche n'est pas encore partie. Alors ça, c'est la dynamis. C'est l'arc tendu. Vous voyez, c'est très intéressant, je crois, parce que ça nous fait comprendre comment le point de vue psychologique est anti-métaphysique. Quand le point de vue psychologique est poussé jusqu'au bout. Quand je veux tout expliquer par le point de vue psychologique. Par le point de vue psychologique, je suis d'accord qu'il y a un moment unique dans la dunamis. Mais ce moment unique ne veut pas dire que c'est le sommet. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a un moment unique et qu'il y a là un état. Oui, je ne suis pas dans l'acte, je suis dans l'état. Un état particulièrement important. Et ça, c'est vrai. Psychologiquement, c'est ça qui apparaît comme le moment de la plus grande tension. La tension stoïcienne. C'est très important de comprendre ça, parce que ça fait comprendre le volontarisme prima tout. Il y a une tension avant l'action qui est la chose principale. Bien plus que l'action. L'action n'est qu'un résultat. Conséquence. Alors vous faites de l'entelekeia, vous faites de l'energeia comme un résultat. Alors si c'est un résultat, évidemment c'est second. Et la source est plus importante. Vous voyez comment on peut arriver à dire des choses comme ça. Et c'est intéressant de le voir, parce que c'est quand même quelqu'un qui a saisi certaines choses. L'energeia, donc je reprends. Il veut dire, selon Heidegger, quand Aristote donc dit que l'entelekeia est antérieure à la dunamis. Donc un passage très important quand même, hein, puisque c'est le premier moment où j'exprime ce que c'est que le principe de causalité finale. Quand j'ai saisi que l'energeia est antérieure à la dunamis. Alors, Heidegger sent très bien que c'est une chose capitale. Alors il nous dit, voilà comment il faut l'interpréter. L'energeia accomplit de façon plus originelle le déploiement de la pure entrée en présence dans la mesure où elle signifie le « se posséder en œuvre et en fin » qui a laissé derrière lui tout le « pas encore » de l'être approprié pour, c'est-à-dire la dunamis. Et même, encore mieux, qui l'a mis en avant avec lui dans l'accomplissement du visage pleinement achevé. Heidegger résume ainsi la thèse principale d'Aristote sur le rapport hiérarchique de entelecheia et dunamis. L'entelecheia est davantage ousia que la dunamis. La première accomplit plus intimement que la seconde le déploiement de l'entrée dans la présence en sa constante, constamment référée à elle-même. Vous voyez, il réaffirme quand même, entelecheia est davantage ousia que dunamis. Elle est davantage ousia que dunamis. La première, donc, accomplit plus intimement que la seconde, le déploiement de l'entrée dans la présence, en sa constante, constamment référée à elle-même. Voilà sans doute une herméneutique de la trouvaille d'Aristote, du sommet de sa pensée, dans cette sorte d'évocation de energeia entelecheia. Heidegger montre qu'il a saisi profondément, poétiquement, cette grande découverte de l'entelecheia, le se tenir dans la terminaison, le se posséder dans la fin. Toutefois, il semble bien que ce soit une saisie plus poétique que philosophique. Heidegger s'est laissé prendre à la séduction de l'expression, à la différence d'Aristote, qui avait inventé le terme pour exprimer ce par quoi le nous s'avait saisi. Vous voyez, je crois que c'est toute la différence entre Aristote et Heidegger. Aristote se sert d'un mot qu'il invente pour nous conduire à la saisie profonde de la réalité. Heidegger est séduit par le mot et il reste sur la terminologie et l'expression du mot. Mais je crois que c'est très important parce que c'est un face-à-face de Heidegger à Aristote. Et c'est toujours à ces moments-là où on doit saisir un auteur. C'est dans ce face-à-face de Heidegger à Aristote. Et c'est vraiment là où on a un face-à-face de Heidegger à Aristote. C'est le grand moment, si vous voulez, de la rencontre où Heidegger reconnaît qu'on est au sommet de la pensée grecque. Et Heidegger monte sur cette pensée. Il essaie de l'atteindre. Puis il regarde Aristote. Mais à la place de regarder ce qu'Aristote signifie, il regarde le mot. Il en est émerveillé. Je crois que toute la différence entre les deux. Et ça fait bien saisir les deux génies. Le génie poétique heideggerien et le génie métaphysique, philosophie première d'Aristote. Aristote ne s'arrête jamais aux mots. C'est pour ça qu'il peut en inventer. Il ne s'arrête jamais aux mots. Il se sert du mot pour exprimer la réalité. L'être en acte. Heidegger, lui, s'arrête à ce prestige extraordinaire du mot entelecheia. Quand Heidegger disait ça, ça devait être assez extraordinaire. Tout ce qu'il portait, tout ce qu'il représentait pour lui ce mot, cette expression, cette manière de voir l'être dans son sommet. Pour s'en convaincre, il suffit de voir comment Heidegger assume cette découverte qu'il considère comme le sommet de la pensée grecque, car il semble bien que cette découverte n'ait pas fécondé son œuvre, qu'elle ne l'ait pas inspirée profondément. Heidegger saisit l'être, non comme entelecheia, mais bien plutôt comme le possible. Alors ça, c'est le dernier mot que je vous ai, c'est dans la lettre sur l'humanisme. Nous ne pensons pas de façon assez décisive encore l'essence de l'agir. On ne connaît l'agir que comme la production d'un effet dont la réalité est appréciée suivant l'utilité qu'il offre. Mais l'essence de l'agir est l'accomplir. Accomplir signifie déployer une chose dans la plénitude de son essence. Atteindre à cette plénitude ne peut donc être accompli proprement que ce qui est déjà. Or, ce qui est avant tout l'être. C'est, je crois, là où nous saisissons bien comment il a été séduit par l'entelekeia. Ça, c'est très vrai. Mais cette séduction n'a pas transformé sa philosophie. Penser l'être, pour lui, c'est tout. C'est pas penser l'être en acte. Non. C'est penser l'être. Et au fond, le lien qu'il mettait entre l'être et entre l'être et l'entelekeia ne dit pas. Mais je crois qu'on est là vraiment en présence de, j'allais dire, du drame métaphysique ou du drame philosophique, c'est plus juste de dire, de Heidegger. C'est qu'il sent très fort quelque chose de très important, mais il n'arrive pas à rejoindre. Les mots sont divers et la réalité est unique. Mais une diversité des mots. Être, entelekeia. Toeinai, entelekeia. Et voyez, cette fin où il montre bien que le possible est en quelque sorte ce qu'il y a de plus grand. Parce que dans le possible, tout est possible. Tandis que dans « et », il y a une réalisation.